Stanislas Vazak, bonjour.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Des dizaines de milliers de soignants ont manifesté aujourd'hui dans toute la France. Ils veulent que le gouvernement tire les leçons de la crise sanitaire en leur donnant des moyens supplémentaires. Le reportage à Paris de Tara Schlegel dans un instant. La commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise a débuté ses travaux à l'Assemblée. Les députés entendent en ce moment Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Des renforts de police envoyés à Dijon après des violences communautaires impliquant des Tchétchènes. La droite dénonce le laxisme supposé du gouvernement. L'analyse à suivre de Pierre Neveu. Aux États-Unis, Donald Trump signe un décret fixant un cadre à la police américaine. Le locataire de la Maison-Blanche espère répondre aux manifestations antiracistes contre les violences policières. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont donc manifesté aujourd'hui dans toute la France pour défendre le système de santé durement éprouvé par la crise sanitaire. Les soignants réclament davantage de moyens pour l'hôpital public. Ils veulent aussi de vraies négociations pour revaloriser les salaires et les carrières. À Paris, le cortège a rassemblé environ 18 000 manifestants devant le ministère de la Santé. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez suivi ce cortège parisien.
Oui, beaucoup de monde sous un soleil inattendu. Emmanuelle est infirmière à l'hôpital. Hôpital Saint-Louis, elle redoute le retour à la normale en un seul mot. Pendant le Covid, dit-elle, son service avait beaucoup changé.
Pendant le Covid, il y avait du matos, il y avait du personnel, c'est-à-dire qu'il y avait des renforts des autres services parce qu'effectivement des services étaient fermés, donc on avait les renforts d'autres services, on avait les renforts de province. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde travaillait dans le même sens, etc. Les médecins étaient avec nous, les cadres étaient avec nous, il y avait un truc de proximité, il y avait vraiment la notion d'équipe et on savait pourquoi on bossait. Là, de nouveau, c'est reperdu. C'est-à-dire qu'il y a de nouveau beaucoup d'infirmières qui partent, mais je crois qu'en fait, on ne s'en rend pas compte à quel point elles vont partir là. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment beaucoup qui ont demandé leur mutation, qui vont partir. Le manque de lits, c'est toujours flagrant, et d'autant plus maintenant parce que tous les services ne sont pas réouverts. Donc les peu de services qui sont réouverts, les lits sont extrêmement demandés parce qu'effectivement, les patients reviennent aux urgences. Et nous, effectivement, ce qu'on demande, c'est une augmentation salariale parce qu'effectivement, si l'hôpital public veut être attractif, ça passera par là.
Aurélie, elle est infirmière en hématologie à l'hôpital Saint-Antoine. Elle a dû à l'inverse se battre pour la moindre surblouse pendant la crise du Covid.
J'ai la rage parce qu'on est dans un des pays les plus riches au monde quand même. Et là, on a fait face, mais en arrêtant tout. Et on disait aux collègues, vous allez au front sans armes. Vous avez deux masques pour 8 heures. C'est inacceptable. Moi, je travaille dans un service, en moyenne, j'en utilise une quinzaine par jour des masques. Et là, du jour au lendemain, on dit c'est deux. Mais comment on fait pour se protéger correctement? Non, ce qui s'est passé, c'est que les salariés de l'hôpital, ils se sont donnés à 2000% pour que ça fonctionne. Parce que c'est normal, c'est ton boulot. Mais qu'est-ce qu'on en sort? Rien. Là, on est capable de faire des annonces pour donner des milliards aux grosses entreprises. Ils sont où les milliards pour les hôpitaux? Pour dire tout de suite combien de lits on crée. J'ai des collègues qui ont été reçus au concours infirmier, qui sont aides-soignants, qui ont été reçus au concours infirmier. On leur dit, vous ne serez pas financés pour vos études. Il y a 10 ans, on finançait toutes les aides-soignantes. Aujourd'hui, on trie. Ben ça, c'est inacceptable, alors qu'on dit qu'il y a des infirmières qui manquent.
Cette militante CGT ajoute que le Ségur n'est qu'une opération de communication pour le gouvernement et elle se félicite d'avoir vu aujourd'hui autant de monde dans la rue.
Tara Schlegel, merci. En marge de la manifestation, des échauffourées ont éclaté, provoquées notamment par des black blocs. Des individus cagoulés ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre au cri de « Tout le monde déteste la police ». Une voiture a été retournée et les policiers ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. La préfecture de police dénonce des groupes violents qui ont tenté de faire dégénérer une manifestation pacifique. Une vingtaine de personnes ont été interpellées. Si les soignants demandent des moyens supplémentaires au gouvernement, celui-ci devra peut-être rendre des comptes pour sa gestion de la crise sanitaire. C'est tout l'enjeu de la commission d'enquête parlementaire qui a débuté ses travaux à l'Assemblée nationale. Nous sommes en direct avec Anne Fauquemberg. Bonsoir.
Bonsoir.
Anne, la commission procède en ce moment à l'audition de Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, celui qui, au plus fort de la pandémie, communiquait chaque soir le dernier bilan des victimes en France.
Oui, une audition qui a pris un petit peu de retard. Le directeur général de la Santé s'exprime depuis 30 minutes environ, sous serment Parlement, comme c'est la règle pour une commission d'enquête. Si les députés commencent par l'entendre lui, c'est parce qu'il était déjà dans le cabinet de l'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, sous le quinquennat Hollande, et qu'il a donc une antériorité pour les aider à comprendre les lacunes révélées par la crise de la Covid-19, antériorité mise en avant dès le départ par la présidente de cette commission d'enquête, présidente En Marche, Brigitte Bourguignon, et par le rapporteur Les Républicains, Éric Ciotti. D'emblée, Damien Abad, le député républicain, Les Républicains, pose la première question sur les masques qui ont fait polémique pendant cette crise du Covid. Le 4 mars dernier, sur BFM, vous avez déclaré « Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. Est-ce que vous regrettez vos propos ?» demande Damien Abad au professeur Salomon. « Nous avons toujours suivi les recommandations internationales », explique-t-il. Il n'y a jamais eu aucun document consensuel, en tout cas jusqu'au 1er juin. Damien Abad qui poursuit. Alors pourquoi sur les tests, vous avez fait l'inverse des recommandations internationales? L'OMS recommandait de tester le public. Sur les tests, il reconnaît que la France est passée d'une doctrine de diagnostic à une doctrine de dépistage. Il reconnaît que ça aurait pu aller plus vite, le professeur Salomon, mais il dit aussi que tous les laboratoires, notamment les laboratoires vétérinaires qui se sont mobilisés pour cette crise, ont mis aussi un peu de temps à se coordonner. Nous sommes en progrès, répète-t-il, avec cette vigilance développée autour des 239 clusters qu'il y a actuellement en France. Et puis actuellement, les débats se portent sur les EHPAD, avec une autre question d'un député. Comment nos aînés... comment vous pouvez assurer qu'il n'y a eu aucune décision nationale pour refuser l'accès des hôpitaux aux seniors? Et là, le professeur Salomon explique que c'était à chaque fois des décisions médicales individuelles basées sur un bénéfice-risque, ce sont ces termes pour le patient, et que les seniors donc qui n'ont pas reçu de soins dans les hôpitaux et qui sont décédés dans les EHPAD, à chaque fois, explique-t-il, ça a été des démarches individuelles, des équipes médicales, des discussions qui s'annoncent longues ce soir avec le professeur Salomon.
Anne Fauquemberg, merci. Et pendant que la commission d'enquête entame ses travaux, Emmanuel Macron, lui, se targue de défendre l'industrie pharmaceutique française. Le président était aujourd'hui chez le géant Sanofi à Marcy-l'Étoile près de Lyon. Il a présenté sa stratégie pour restaurer la souveraineté sanitaire de la France. Cela passera par une enveloppe de 200 millions d'euros pour soutenir et relocaliser la production pharmaceutique. C'est un reportage de Mathilde Imberti.
Sanofi travaille actuellement sur deux candidats vaccins. Emmanuel Macron a pu visiter le laboratoire de développement de l'un de ces deux vaccins ce matin sur le site de Marcy-l'Étoile, l'un des plus gros sites de production au monde, 40 hectares, 3600 collaborateurs. En termes de calendrier, le groupe français vise des essais cliniques au deuxième semestre 2020 pour une autorisation de mise sur le marché à la mi-2021. Sanofi qui a annoncé à l'occasion de la visite présidentielle d'importants investissements pour l'avenir, pour un nouveau site de production et un nouveau centre de recherche. Emmanuel Macron.
Avec un peu plus de 600 millions d'euros d'investissement, c'est une ligne supplémentaire qui sera décidée ici. Et une usine exceptionnelle, une première mondiale, l'usine de vaccins EVF, qui va permettre de produire tous les vaccins dont nous aurons besoin, avec une innovation de production absolument unique. Cette crise nous a montré que nous devons continuer à produire dans notre pays et sur notre continent. C'est ce que l'investissement décidé aujourd'hui permet de faire.
Au total, l'État débloquera 200 millions d'euros pour soutenir la production pharmaceutique et dès jeudi, une initiative de relocalisation de cette production sera mise en place. L'objectif dépeint par le chef de l'État, la reconquête de la souveraineté sanitaire.
Mathilde Imberti avec Emmanuel Macron lors de son déplacement chez Sanofi. Au Royaume-Uni, un médicament suscite l'espoir dans la lutte contre la Covid-19 à tel point que le gouvernement britannique a décidé de l'utiliser immédiatement. La dexaméthasone est un stéroïde qui semble améliorer la survie des patients les plus gravement atteints. C'est en tout cas ce que montre l'étude Recovery menée par des chercheurs britanniques. Antoine Gignot nous appelle de Londres.
Le produit n'est pas cher, il est disponible sur le marché et on peut l'utiliser dès maintenant pour sauver des vies, explique Peter Bee, professeur à Oxford. Avec son équipe, il a administré à plus de 2000 malades en état critique 6 mg de dexaméthasone une fois par jour pendant 10 jours avec un résultat impressionnant. Le médicament, stéroïde prescrit habituellement pour lutter contre des maladies inflammatoires ou adoucir l'effet des chimiothérapies, fait chuter d'un tiers le taux de mortalité des patients placés sous respirateur respirateurs et améliore l'état de santé de ceux qui ne sont pas encore intubés, mais déjà sous oxygène. En généralisant l'utilisation de la molécule, on pourrait, précisent les scientifiques, empêcher un décès sur 8. Aucun autre traitement ne fonctionne aujourd'hui de manière aussi efficace. Après l'abandon des tests sur l'hydroxychloroquine, le directeur médical du système de santé britannique parle d'avancées majeures dans la lutte contre l'épidémie. Le ministre de la Santé, sur les réseaux sociaux, précise que le gouvernement dispose de 200 000 traitements stockés depuis le mois de mars et prêts à l'emploi.
Antoine Gignot, correspondant au Royaume-Uni. En Chine, la Covid-19 a fait son retour à Pékin. 106 nouveaux cas depuis la semaine dernière. La mairie de la capitale chinoise parle d'une situation extrêmement grave. Elle vient d'ordonner la fermeture de toutes les écoles et universités de la ville. Les autorités chinoises procèdent également au dépistage de dizaines de milliers d'habitants de Pékin. Dijon connaît depuis la semaine dernière des violences urbaines totalement inédites en France. 3 jours de suite, des dizaines de Tchétchènes ont débarqué dans la capitale bourguignonne pour mener des expéditions punitives contre la communauté maghrébine. Il s'agissait de venger l'un des leurs passé à tabac dans un contexte de règlement de compte. Les Tchétchènes ont quitté la ville, mais dans le quartier des Grésilles, des jeunes, pour certains armés, ont provoqué hier des incidents sous prétexte de vouloir défendre leur territoire. Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Ces violences communautaires de Dijon sont désormais un sujet politique. Le gouvernement envoie des renforts de police alors que la droite dénonce le laxisme supposé du pouvoir face aux émeutiers.
La fermeté et des renforts de gendarmerie, voilà la réponse apportée ce matin par le secrétaire d'État Laurent Nunez, qui a effectué un déplacement dans la cité des Ducs. Un message à double lecture, adressé tout d'abord aux habitants de Dijon, inquiets par ces soirées de violence. Message en interne, adressé aux forces de l'ordre, au moment même où des policiers contestent l'autorité de leur ministre Christophe Castaner. Brèche dans laquelle s'engouffre une nouvelle fois Marine Le Pen, qui se pose comme la principale opposante au gouvernement sur les thématiques de la sécurité et du communautarisme. Dans une prise de parole solennelle tout à l'heure, depuis Dijon, la présidente du Rassemblement national dénonce un ensauvagement intercommunautaire. À droite, chez les Républicains, Éric Ciotti fait le constat de l'impuissance du gouvernement quand le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, demande aux autorités de désarmer les gangs, lui qui, le week-end dernier, appelait à désarmer la police. Une idée baroque, ironise cet après-midi le Premier ministre Édouard Philippe, qui rappelle le rôle éminent des forces de l'ordre. Message de soutien qu'a tenté de porter le ministre de l'Intérieur, soumis cet après-midi sous le feu des questions des députés. Il n'y a ni lâchage, ni abandon d'autorité, assure dans la tourmente Christophe Castaner.
Pierre Neveu, merci. Christophe Castaner qui a aussi déclaré à l'Assemblée qu'il était le premier défenseur des forces de l'ordre. Et justement, le ministre de l'Intérieur est-il le premier flic de France? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités dans le temps du débat, juste après ce journal. C'est un jugement qui sonne comme une victoire. Le Rassemblement national jubile en ces termes ce soir à l'annonce du jugement concernant le financement électoral de l'ancien Front National. Le tribunal correctionnel de Paris a bien prononcé des condamnations à l'encontre de l'ex-FN et de plusieurs cadres du parti, mais il n'a pas retenu l'accusation d'escroquerie s'agissant de la campagne législative de 2012. Florence Turme, le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du parquet.
En novembre dernier, le parquet avait requis une amende de 500 000 euros contre l'ex-Front National. De son côté, le représentant de l'État lui réclamait plus de 11,5 millions, correspondant selon lui aux dépenses électorales remboursées par l'argent public sous couvert de l'escroquerie dénoncée par l'accusation. Mais les juges n'ont pas eu tout à fait la même lecture du dossier. Elles ont estimé ne pas avoir trouvé de manœuvre frauduleuse ni de preuve de surfacturation derrière la remise obligatoire des kits de campagne fournis par la société Riwal et vendus par Jeanne, le micro-parti de Marine Le Pen, avec entre les deux un aller-retour comptable qui permettait à ce micro-parti, quasi dénué de fonds propres, d'avancer presque 9 millions d'euros. Le tribunal relaxe donc l'ex-Front National de l'accusation la plus lourde, celle d'escroquerie, mais il le condamne pour recel d'abus de biens sociaux, en l'occurrence l'emploi fictif de deux de ses élus par la société Riwal. Riwal, poursuivi pour avoir permis au FN de bénéficier d'un crédit sans intérêt de plusieurs millions d'euros pendant 3 ans, mais mécanismes de prêts fictifs dénoncés cette fois par le tribunal comme des faits particulièrement graves. Frédéric Chatillon, proche conseiller de Marine Le Pen et dirigeant de Rewall, est condamné à 10 mois de prison ferme. L'eurodéputé Jean-François Jalque, le juriste du parti considéré comme l'auteur du montage financier, à 6 mois ferme. La seule amende de 18 750 euros retenue à l'encontre de l'ex-Front National devrait dissuader le parti de Marine Le Pen de faire appel de ce jugement. Mais le parquet en a aussi la possibilité et 20 jours pour le décider.
Florence Turme, merci. Comment venir en aide à des enfants victimes de maltraitance pendant le confinement? L'association L'Enfant Bleu a trouvé une solution grâce à un jeu vidéo, le très populaire Fortnite. Un jeu apprécié des jeunes qui a permis d'établir discrètement la communication, car les enfants pouvaient contacter un personnage virtuel derrière lequel se relayaient des bénévoles de l'association. Expérience concluante qui pourrait bien être renouvelée avec d'autres jeux vidéo, Margot Delpierre.
En un mois, plus de 1000 enfants ou ados ont contacté le personnage. 30% d'entre eux se sont confiés sur des problèmes personnels plus ou moins graves. Certains ont signalé être dans une situation d'extrême urgence et ont été orientés vers des structures spécialisées. Laura Morin est la directrice nationale de l'association L'Enfant Bleu.
C'était un pari, hein. On s'est dit, ça nous paraît être une bonne idée. On va l'essayer, mais évidemment, comme ça n'avait jamais été fait, on ne savait pas du tout comment ça allait prendre. Et on est extrêmement content de voir que, effectivement, 1200 personnes ont ajouté ce personnage. Ça montre bien, ça vient confirmer finalement l'intuition que nous avions eue, que le jeu vidéo est vraiment un lieu qu'on peut investir pour pouvoir échanger avec les jeunes. C'est vraiment très très bien et c'est vraiment un signe d'espoir.
L'Enfant Bleu a pu compter sur le soutien de professionnels du e-sport et d'influenceurs spécialistes du jeu vidéo, des gamers qui sur les réseaux sociaux ou les plateformes de streaming ont informé leur jeune communauté de l'existence du personnage sans avertir leurs parents. L'association espère renouveler ce type d'opération avec d'autres éditeurs de jeux vidéo. L'objectif est d'en faire un dispositif pérenne d'aide aux enfants en danger. Un groupe de travail vient d'être créé. Il se réunira à partir du mois de septembre.
Et voilà pour ce reportage de Margot Delpierre. La Hongrie va lever l'état d'urgence sanitaire. Le Parlement hongrois a approuvé aujourd'hui la fin de cet état d'exception qui avait déclenché de nombreuses critiques à l'étranger. Le Premier ministre Viktor Orban était accusé d'avoir profité de la crise sanitaire pour restreindre les libertés publiques à coups de décrets. Le reportage à Budapest de Florence Labruyère.
C'est une victoire pour le Premier ministre Viktor Orban. Il y a 3 mois, il avait assuré que son gouvernement rendrait les pleins pouvoirs quand le danger serait passé. Il a tenu parole. Viktor Orban estime avoir été injustement accusé de basculer vers l'autoritarisme et il se présente aujourd'hui en vrai démocrate. Le Parlement hongrois a donc approuvé la fin de l'état d'urgence. La mesure devrait entrer en vigueur d'ici quelques jours, indique la ministre de la Justice, Judith Varga.
C'est la fin des pouvoirs spéciaux donnés au gouvernement pour combattre le virus. Le gouvernement ne peut plus déroger aux lois. Il pourra simplement prendre des décisions liées à la santé publique, mais ce sera limité dans le temps.
Mais pour David Vig, président de la branche hongroise d'Amnesty International, la levée de l'état d'urgence est un trompe-l'œil.
Le gouvernement a passé une couche de peinture sur l'état d'urgence. Il a fait un copier-coller et l'a inséré dans une autre loi. Ça veut dire qu'en cas de deuxième vague, le gouvernement peut reprendre les pleins pouvoirs sans l'autorisation du Parlement. Il peut cesser d'appliquer les lois et gouverner par décret.
Il suffira donc au gouvernement d'invoquer des critères très vagues pour prendre les pleins pouvoirs. D'autre part, sur la centaine de décrets publiés depuis fin mars, certains continueront à être en vigueur. Les commandants militaires nommés à la direction logistique des hôpitaux vont rester en place. Et les décrets qui ont réduit les pouvoirs des municipalités et leurs moyens financiers resteront en vigueur. Quant à la loi qui punit de 50 prisons les diffuseurs de fausses nouvelles, selon le gouvernement, elle est toujours d'actualité.
Florence Labruyère, correspondante en Hongrie. Aux États-Unis, Donald Trump doit signer ce soir un décret destiné à promouvoir les bonnes pratiques au sein de la police américaine. Une cérémonie à la Maison-Blanche est prévue à cet effet. L'initiative du président intervient un peu plus de 3 semaines après la mort de George Floyd et 4 jours après le décès d'un autre noir américain, Rayshard Brooks, tué par un policier blanc à Atlanta. Grégory Phillips nous appelle de Washington.
Le président de la loi et de l'ordre, Law and Order, comme Donald Trump le tweet régulièrement depuis le début des manifestations, veut donc réconcilier les Américains et leurs forces de l'ordre. Pas question de couper les fonds des différents services de police, comme le réclament parfois les manifestants, mais l'administration propose de lier les subventions fédérales à la mise en place de bonnes pratiques. Seront favorisées les unités qui se moderniseront et embaucheront par exemple plus d'agents locaux. La Maison-Blanche envisage aussi de créer une base de données nationale des policiers ayant eu recours à un usage excessif de la force afin qu'ils soient identifiés. Enfin, l'administration veut encourager les différents services de police à mieux appréhender les problèmes de santé mentale des suspects. Mais le décret présidentiel est purement incitatif. Aux États-Unis, il y a près de 18 000 services de police différents qui dépendent des villes ou des États. Dans le même temps, au Congrès, les élus démocrates ont déposé un projet de loi qui prévoit d'interdire au niveau fédéral les techniques d'étranglement au moment des interpellations.
Grégory Phillips, notre correspondant aux États-Unis. Retour en France pour le temps demain, toujours orageux sur le nord-est et pluvieux à l'ouest. Ailleurs, le ciel sera variable et même bien ensoleillé sur les régions méditerranéennes. Les températures le matin iront de 10 à 19 degrés du nord au sud. L'après-midi, il fera entre 16 et 27 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.